Bonjour à tous, amis auditeurs d'Instant M. Je vous propose aujourd'hui une immersion au cœur de la capitale. Je suis à Paris pour une rencontre exceptionnelle en tête-à-tête avec la présidente et directrice de publication de Mediapart. Alors là, amis auditeurs, Mediapart, pour moi, c'est le Graal. C'est la référence journalistique en France, de mon point de vue. J'arrive devant le siège de Mediapart, j'ai rendez-vous à 10h30, enthousiaste à l'idée de rentrer dans les bureaux de Mediapart. Il fait beau, nous sommes le 13 mars 2025. Voilà, j'arrive devant la porte, on est un petit peu en avance, mais on va rentrer.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication établie. La porte est ouverte.
Eh ben c'est super! Alors, il y a un ascenseur, mais je vais prendre l'escalier. Un escalier molletonné.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication et la porte est ouverte.
Merci. Ah, ça y est, j'arrive dans les lieux. Bonjour. Ah, il y a un sas d'accueil. Merci, monsieur. Mathieu, enchanté. Oula, c'est la fête?
C'est la conférence de rédaction qui vient de se terminer.
Conférence de rédaction qui vient de se terminer, super. Ouais, j'attends là, ok.
Ici dans la salle.
Merci Antoine, il me propose un café, c'est top. Bon, j'arrive dans une petite salle très sympathique. La conférence de rédaction vient de se terminer. Bah, je suis heureux d'être là. Alors, il y a des caricatures sur les murs qui me font d'emblée rigoler. Il y a 6 caricatures. Charb, Gros, Tinius. Un dessin de Charb, la France qui se lève tôt n'a pas le temps d'analyser ses rêves. Citation de Roland Gori. Ah, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Karine.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Je voudrais d'abord te proposer un café.
Eh bien, il y a un monsieur qui m'a accueilli.
D'accord.
Et qui m'en a proposé un.
Ok, alors moi, si tu veux bien, je vais m'en chercher un.
Eh bien, grand plaisir.
Et
à tout de suite. Super, la France qui se lève tôt, enfin caricature, plutôt un dessin de presse de Charb. Et on a Nicolas Sarkozy qui commente, ça lui laisse le temps de vivre ses cauchemars. Il y en a un autre, de Charb également. Tu fais quoi chérie? Je m'informe sur Mediapart. Merci Antoine, merci beaucoup. Les journalistes au goulag, point d'interrogation, pas la peine. Il y a de la place qui se libère à Guantanamo. Un autre, ça passera jamais dans la presse. Il y a un monsieur qui tend un panneau rêve général. Nous on a des correcteurs, un dessin de Tinius. Et enfin les deux derniers, pourquoi ils l'ont pas invité? La femme du ministre des Affaires étrangères. Ça aurait fait une gonzesse. Gros. Et enfin, le dernier de T-News, Victor Hugo nous manque. Une chance, il nous reste les misérables. Et je viens de lire le dernier dessin et Karine Fouteau arrive avec son café. On m'a accueilli dans un petit sas, très sympathique, et on m'a dit que la conférence de rédaction venait de se terminer.
Tout à fait, ça vient de se terminer à l'instant.
Et je suis là, pile à l'heure.
Exactement, on recevait une classe.
Une classe d'élèves?
Ouais. D'élèves comme...
Des petits, des grands?
De lycéens.
Parisiens?
S'intéressent, non, pas parisiens. Ça commence tous les jours à 10h et ça dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Toute l'équipe est invitée à assister à cette conférence de rédaction. Pas seulement les journalistes, c'est une spécificité de Mediapart. On considère qu'un journal est fabriqué par non seulement les journalistes, mais aussi les personnes qui s'occupent de l'outil informatique, mais aussi les personnes qui s'occupent du marketing, de la relation avec les abonnés, de la gestion, de la communication, et que c'est tout ça qui fait le fait qu'on soit tous bien en phase avec l'actualité, qui fait que nos informations ont de la force et de l'impact. Donc c'est important pour nous que tout le monde participe à cette conférence de rédaction. Mais alors, c'est pas moi comme présidente et directrice de publication qui anime cette conférence de rédaction, ce sont les directrices éditoriales qui sont aujourd'hui Lénaïque Bredoux et Valentine Auberti.
Je les ai aperçus au loin. Alors je suis encore en habit, je peux me dévêtir, me mettre à l'aise. Est-ce qu'on peut se tutoyer Karine? Oh, c'est super. Est-ce que tu préfères que je me mette à ta gauche ou ici?
À ta guise.
J'ai mon petit papier, ça va faire l'introduction de cette immersion à Mediapart. Alors avant tout, je suis ému. Je suis honoré que tu aies eu la sympathie de me dire on te convie pour tes auditeurs, pour ton média. Donc voilà, je suis enchanté d'être là. Je suis Mediapart depuis le début. Alors on a commencé pile à l'heure, Karine. Combien de temps tu m'accordes là aujourd'hui?
Une bonne demi-heure.
Qu'est-ce que tu fais après? Tu bosses?
J'ai beaucoup de travail, ouais. Mais bon, ça c'est comme tous les jours, hein. des dossiers en attente, des coups à parer. Vous savez que Mediapart fait face à beaucoup d'attaques. Donc moi, mon rôle comme directrice de la publication et présidente, c'est de servir de bouclier. Voilà, alors je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est des coûts qu'on anticipe pour l'avenir, mais il faut anticiper et s'assurer que le moment où les coûts viendront, on sera en mesure de les parer.
Ami auditeur, comment j'ai rencontré Karine Fouteau? Comment se fait-il que nous sommes là, tous les deux, dans cette petite pièce de Mediapart, dans un moment privilégié? Ben, je vais vous le dire. Nous nous sommes rencontrés à Moulins, lundi 17 février, lors de la projection d'un film super intitulé « Personne n'y comprend rien », au cinéma depuis le 8 janvier, un film de Yannick Kergoa, coproduit bien évidemment par Mediapart. Et figurez-vous que ce film a été projeté au cinéma de Moulins. Mais c'était pas seulement une projection, c'était un ciné-débat avec Karine Fouteau. Et c'était top. J'ai énormément apprécié le film, Karine. Et j'ai bien aimé également après la rencontre. En général, les rencontres, c'est assez succinct. Ça dure quelques minutes. Je crois que le ciné-débat de Moulins a duré plus d'une heure. Tu as pris le temps pour chaque question de répondre précisément. Moi, j'ai aimé particulièrement ce moment. Après le débat, je suis allé te rencontrer, te proposer cette interview. Et voilà, nous sommes là à Paris en ce jeudi 13 mars. Est-ce que tu te souviens de ce débat moulinois? Qu'est-ce que tu en as retenu? Comment tu l'as ressenti?
Avec beaucoup d'intensité et beaucoup de chaleur. C'est vrai que là, depuis la sortie de ce film, Mediapart et en fait toute l'équipe de Mediapart se déploie partout en France pour aller à la rencontre de ses lecteurs, ses lectrices, mais aussi tout simplement de gens qui s'intéressent de près ou de loin à Mediapart, qui s'intéressent à notre travail, qui s'intéressent à ce film. Personne n'y comprend rien, qui retrace 14 ans d'enquête sur l'affaire libyenne. Et pour nous, le fait d'aller comme ça dans des salles de cinéma et débattre, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de tous et toutes, d'expliquer comment on travaille, de raconter nos informations. Et c'est aussi l'occasion de se tenir chaud. Et c'est vrai que cette rencontre à Moulins, c'était très chouette. C'était un lundi soir, c'était un peu tard. C'était encore une période où vers 18h30, il commençait à faire nuit, il faisait froid. Et on sentait que tout le monde avait besoin de se retrouver, d'échanger, de débattre. Alors, c'est pas seulement la météo, c'est aussi le climat mondial qui fait qu'on a besoin de se tenir chaud. On vit un moment d'immense bouleversement. C'est complètement vertigineux. Moi, j'ai le sentiment que la crise mondiale qu'on est en train de traverser, c'est peut-être une des crises les plus graves qu'on ait vécues de notre vivant, puisque ce qui est en cause, c'est des décennies de structuration de nos sociétés, la remise en cause de principes fondamentaux comme l'égalité, la solidarité, la justice, qui sont des valeurs qui nous sont chères depuis la Révolution française en France, et qui sont aujourd'hui mises en cause par le pouvoir d'extrême droite aux États-Unis, qui met au cœur de son idéologie l'inégalité entre les êtres. Ce qui est aussi remis en cause, on le voit en ce moment avec le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est la remise en cause du droit international et donc de principes fondamentaux aussi importants que l'intégrité territoriale ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est une remise en cause de tout ce qui a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et troisième élément de remise en cause drastique, c'est la remise en cause sur les faits, sur la vérité factuelle, et puis aussi la recherche scientifique. À Mediapart, on a invité dans notre émission à l'air libre, qui est une émission vidéo, 2 à 3 fois par semaine, une paléoclimatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, qui a participé à la rédaction de rapports du GIEC, très importants pour la recherche scientifique, et qui, elle, considère que ce qui est en train de se passer aujourd'hui remet en cause tout ce qui a été construit depuis les Lumières. Et donc, on voit bien que là, donc, c'est des pans entiers de ce qui constitue le socle de notre société commune, non seulement depuis des décennies, mais peut-être depuis des siècles, qui est remis en cause brutalement par ce nouvel ordre mondial qui met en péril les démocraties. Voilà, c'était aussi dans un moment comme celui-là que je venais à la rencontre du public de Moulins, et je pense que tout le monde dans cette salle était assommé, stupéfait, fait par cette stratégie du choc et de l'effroi construite par les États-Unis en ce moment, qui consiste vraiment à asséner chaque jour une nouvelle mesure, une nouvelle déstabilisation, et qui provoque ça, cette stupéfaction. Et nous, on considère à Mediapart qu'on doit résister à ça, et qu'on ne doit pas rester comme les lapins avec la lumière des phares dans les yeux, et qu'on doit sortir de cette ornière, et que pour sortir de cette ornière, il faut comprendre d'abord qu'on a un rôle à jouer, qu'on n'est pas impuissant, il n'y a pas de fatalité, il ne faut pas se résigner, puisque c'est l'objectif de cette stratégie du choc et de l'effroi, c'est de produire justement de la résignation, et puis ensuite peut-être de l'acceptation, et puis ensuite peut-être de la collaboration. Nous, on doit se tenir debout, on doit résister, et nous, on considère à Mediapart que les journalistes sont utiles, ils ont de l'impact, ils peuvent faire bouger les lignes par leurs informations, et puis aussi dans le lien qu'ils construisent avec leurs lecteurs et leurs lectrices. Et c'est vrai que c'est important pour nous de redire ça en échangeant dans une salle de cinéma un lundi soir, alors que la catastrophe est en train de se produire. Nous, on dit, on doit regarder la catastrophe en face, mais en étant ensemble, on peut y arriver, il y a des choses à faire et on n'est pas impuissant. Voilà, on a des cordes à notre arc et maintenant il faut qu'on tire l'arc. À Mediapart, notre arc, c'est l'arc de l'information. Comment on met sur le devant de la scène des informations qui peuvent faire bouger les lignes. Mais c'est vrai qu'aussi le fait d'être ensemble, de partager ce discours, ces moments de difficulté dans lesquels on est, c'est important de se tenir chaud et toujours d'ouvrir le plus largement possible le cercle des personnes qui nous entourent, qui nous écoutent et avec lesquelles on peut être en dialogue. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire pendant ce débat, tout ça, ce n'est possible que parce que Mediapart est indépendant. Si on produit une information de qualité, c'est parce que Mediapart est indépendant de tous les pouvoirs. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire pendant le débat, et à chaque fois que je m'exprime à l'extérieur, sans les lecteurs, Mediapart meurt. Il n'y a plus d'informations médiapartiennes. Tous nos revenus viennent de nos abonnés. Nous ne recevons pas de...
Pas d'aide publique.
Pas d'aide publique, donc pas d'aide de l'État. Nous n'avons pas de milliardaires actionnaires à notre tête. Nous ne signons aucun accord commercial avec des GAFAM, à la différence de beaucoup de nos confrères et de nos consoeurs qui prennent un grave risque de se mettre entre les mains de ces puissances-là qui risquent de changer de stratégie du jour au lendemain et de les laisser tomber. Et par ailleurs, nous ne publions pas de publicité sur Mediapart, donc nous n'avons pas de revenus publicitaires. Et c'est pareil, en faisant ça, non seulement on est indépendant de toutes ces puissances et de toutes ces influences-là, mais surtout, on ne se met pas en danger si ces puissances-là décident de nous quitter un jour ou l'autre. Les seules personnes dont on ne souhaite pas qu'elles nous quittent, ce sont nos lecteurs, donc on essaye, et nos lectrices, on essaye de les fidéliser au maximum et toujours d'en attirer davantage dans notre giron.
Alors aujourd'hui, Karine, nous sommes très exactement le jeudi 13 mars 2025. Le mois de mars pour Mediapart, c'est important. Parce qu'il y a 17 ans, quasiment jour pour jour, Mediapart naissait. Mediapart est né au mois de mars 2008.
Le 16 mars,
merci Karine. Alors le 16 mars, on boit un coup en l'honneur de Mediapart. J'ai lu brièvement quelques infos clés sur le site. Alors je vous conseille bien sûr, amis auditeurs, de vous abonner à Mediapart si vous le souhaitez. Tout du moins, allez jeter un coup d'œil, puis vous vous ferez une idée de comment fonctionne ce site journalistique au top. Je suis pas très objectif, mais je dis ce que j'ai sur le cœur. C'est vraiment l'essence du journalisme. Et il y a un rapport chaque mois de mars qui s'est fait le 11. Et j'ai lu des choses enthousiasmantes. Tout est au clair, tout est au vert chez Mediapart, le nombre d'abonnés augmente, les courbes sont croissantes si ce n'est exponentielles, on est à plus de 240 000 abonnés, 245 000 aujourd'hui, ce qui est merveilleux.
Je peux donner quelques chiffres parce que c'est,
oui, bien sûr.
C'est assez rare dans le paysage médiatique.
C'est unique, Karine, ça n'existe pas ailleurs.
Effectivement, la plupart des journaux sont endettés, ont fait des emprunts, doivent pour certains licencier des journalistes ou des salariés. Effectivement, on n'est pas du tout dans ce cas de figure à Mediapart, justement parce qu'on a fait le choix de l'indépendance et que les lecteurs et les lectrices nous font confiance pour ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver sur Mediapart de l'information déliée de toutes les pressions et de sans censure et sans autocensure. Et donc, effectivement, les résultats sont à la clé. Le nombre d'abonnés est en forte hausse en 2024 et sur le début de l'année 2025. Ça commence très bien, notamment tiré par le film « Personne n'y comprend rien » qui a donné beaucoup de visibilité à Mediapart ces premières semaines de 2025. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a 245 000 personnes qui sont abonnées à Mediapart. Et pour vous vous donner un ordre d'idée, on se classe en troisième position derrière Le Monde et Le Figaro, qui sont deux gros journaux qui existent depuis des décennies et qui sont dépendants de certains pouvoirs, à la différence de Mediapart. En tout cas, qui reçoivent des aides publiques et qui diffusent de la publicité. Donc 245 000 abonnés, un chiffre d'affaires de 24,9 millions d'euros et surtout un bénéfice. Si on fait la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, eh bien on est dans le vert. Et là, à hauteur de 3 millions d'euros pour l'année 2024, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui rentables depuis 14 ans sur nos 17 ans. Les trois premières années, eh bien, il a fallu qu'on aille chercher des abonnés. On a fini par être à l'équilibre au bout de 2-3 ans, 2010-2011, grâce à l'affaire Bettencourt. Et puis ensuite, depuis cette date-là, depuis cette affaire-là, nous sommes bénéficiaires. Ça veut dire qu'encore une fois, on gagne plus d'argent qu'on en dépense. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'investir pour continuer de nous développer, pour renforcer nos forces éditoriales. Et là, par exemple, cette année, notre ambition, c'est de renforcer nos forces d'enquête sur l'international et la politique. Je pense que ça se passe de commentaires. La politique, c'est aussi la politique française, parce qu'on a parlé là beaucoup du contexte international, mais c'est le contexte français qui est aussi en grande difficulté, avec une quasi-crise de régime depuis la dissolution de juin 2024, avec ce risque de l'extrême droite qui est de plus en plus pressant. On a cru, avec les législatives anticipées, que l'extrême droite pouvait entrer au gouvernement. Alors, grâce à la mobilisation citoyenne, l'extrême droite s'est pas retrouvée en première position, heureusement, aux législatives, mais néanmoins, on sent que les idées de l'extrême droite gagnent du terrain, à la fois dans la classe politique, mais aussi au gouvernement. Et puis, on voit aussi dans l'espace médiatique la puissance de frappe d'un groupe comme Bolloré, qui à la fois a des radios, des télévisions, des journaux. Donc pour les journaux, c'est le JDD qui a été complètement vidé de sa substance après son rachat par Vincent Bolloré. Et puis Europe 1 et puis CNews qui, selon nous, sont des organes de presse qui diffusent de la haine, de la désinformation, qui dressent les citoyens les uns contre les autres et qui ne font pas de l'information, qui font de la propagande. Et nous, on considère à Mediapart qu'il faut vraiment qu'on se dresse contre ce type de puissance, parce que en ne faisant pas la différence entre le vrai et le faux, elles mettent la démocratie française en grand danger. Donc nous, on considère qu'il faut qu'on rappelle haut et fort ce que c'est que le rôle des journalistes. Les journalistes ne sont pas des diffuseurs d'opinion et de propagande. Les journalistes travaillent sur des faits recoupés, documentés, vérifier, c'est ça le cœur de notre métier. Les enquêtes à Mediapart, et d'ailleurs l'affaire libyenne en est un témoignage, ce sont des enquêtes qui prennent beaucoup de temps, 14 années d'enquête, hein, plus de 160 papiers sur cette affaire qui est un scandale d'État qui concerne à la fois un ancien président de la République française mais aussi un ancien dictateur libyen. Et il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de l'indépendance pour produire ce type d'information. Et il faut une éthique professionnelle. C'est un savoir-faire. Il faut répondre à un code de déontologie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des faits qui sont documentés. On ne publie pas si on n'a pas d'éléments qui soutiennent ce qu'on peut avancer. Et puis, évidemment, le contradictoire, c'est-à-dire respecter les personnes qu'on met en cause, écouter ce qu'elles ont à nous dire, et toujours et avant tout le secret des sources, c'est-à-dire la protection, la garantie de la protection absolue des personnes qui nous délivrent des informations.
Coïncide, si je puis dire, la sortie du film. Alors vous allez continuer les ciné-débats encore, hein, je pense, quelques temps. Jusqu'à quand d'ailleurs ?
Eh bien,
toute l'année ?
Tout le temps que des
cinémas seraient appelés.
Qu'on sera appelés, que des cinémas nous feront la grâce de diffuser notre film. Alors, vous connaissez cette loi qui s'appelle la loi sur la chronologie des médias, qui fait qu'un film ne peut pas être publié, ne peut pas être diffusé sur les plateformes avant un certain temps après sa diffusion dans les salles de cinéma. Parce que c'est bien normal, il faut que les salles de cinéma attirent d'abord les spectateurs. Et puis, là, on a un délai de 4 mois. Et donc, ça veut dire que nous, en mai, Mediapart sera en capacité, sur son site, de diffuser le film en VOD. Donc, ce sera intéressant. Les réquisitions de l'affaire libyenne sont attendues en mars, tout à la fin du mois de mars, ou peut-être début avril. Et puis, juste après, eh bien, le film que certains et certaines ont déjà vu en salle sera disponible en VOD et toutes celles et tous ceux qui n'auront pas pu le voir en salle pourront à ce moment-là y avoir accès sur le site de Mediapart et sur d'autres plateformes.
Ce qui est top, c'est que la sortie du film coïncide avec le procès, ça c'est super. Et amis auditeurs, si vous voulez justement y comprendre quelque chose à cette affaire, sur le site de Mediapart, en accès libre, je ne peux pas vous dire mieux, il y a un résumé une fois par semaine en vidéo, je crois que de mémoire ça dure 5 minutes avec les protagonistes clés, notamment Fabrice Arfi
et Carl Haske qui sont au journal depuis le début de Mediapart et qui sont des grands enquêteurs qui ont tenu à bout de bras cette enquête alors même que pas grand monde n'y croyait dans le monde de la presse. On a mis du temps avant que nos informations soient reprises ailleurs. Aujourd'hui, il y a un procès et donc un certain nombre de journaux finissent par s'intéresser à cette affaire, mais on remarque que les télés, par exemple, sont toujours assez absentes, même complètement absentes, en vérité, dans le suivi de ce procès. Donc ça interroge. Et donc oui, on a besoin de gens comme Fabrice Arfi et Carl Haske, qui ont une éthique professionnelle irréprochable, un savoir-faire, et surtout une ténacité et une détermination qui font qu'ils ne lâchent pas le fil, ils ne lâchent pas l'affaire, et qu'aujourd'hui on est en mesure effectivement de vous présenter un tel film.
Nous sommes à la semaine 8. Chaque semaine, il y a 5 minutes de résumé, de point de situation de ce procès. Les protagonistes de cette affaire de financement de campagne présidentielle 2007. Oui.
Je dois dire qu'en fait, il y a un certain nombre de contenus de Mediapart qui sont en accès libre. Donc tout à fait, effectivement, il y a ce résumé très pédagogique.
Qui est très bien fait.
Voilà, très clair. Toutes les semaines, qui raconte un peu où on en est du procès. Et puis, notre émission à l'air libre, qui est aussi en accès libre. Et pas mal de contenus, si vous avez l'habitude d'aller sur YouTube, on a une chaîne YouTube qui comprend plein d'abonnés aussi, et qui est gratuite d'accès. Et donc déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Et puis ensuite, vous venez directement sur le site et vous verrez que là aussi, il y a des contenus qui sont en accès libre et qui peut-être vous donneront envie de vous abonner. Et aussi, je dois dire que Mediapart a deux tarifs. Il a un tarif standard à 12 euros par mois, mais aussi pour les personnes qui ont moins de revenus, qui n'ont pas les moyens de dépenser 12 euros, qui sont au chômage, ou aussi pour les étudiants, parce qu'on s'intéresse beaucoup à ce public jeune qui entre dans la vie active, alors, qui est encore soit étudiant, soit qui entre dans la vie active. Et on a pour eux un tarif à 5 euros. Et ce tarif, il n'a pas bougé depuis la création de Mediapart, parce qu'on considère que les personnes qui n'ont pas suffisamment, on ne peut pas leur demander plus de 5 euros, mais 5 euros par mois, on se dit que ça peut le faire, y compris pour celles et ceux qui n'ont pas trop de sous. Et on espère qu'en tout cas, c'est suffisamment incitatif pour leur permettre d'avoir accès à nos informations, parce que nous, on veut laisser personne au bord du chemin. On veut vraiment que toutes celles et tous ceux qui ont soif d'informations, qui ont soif de comprendre ce qui se passe dans ce monde, qui ont besoin de clés, nous, on est là pour ça, et on veut être accessible à tout le monde, au plus grand nombre. On veut que Mediapart soit un journal populaire qui s'adresse à tout le monde. Et on pense que nos informations, elles dérangent, et c'est aussi ce qui fait leur intérêt, c'est qu'effectivement, elles dérangent les pouvoirs. Elle dérange les puissances économiques, les puissances politiques. On est là au service des citoyens pour faire que ces puissances économiques et politiques rendent des comptes. Ces personnes, alors pas forcément les chefs d'entreprise, mais en tout cas les responsables politiques sont élus par nous, par les citoyens et les citoyennes. Et nous, comme journalistes, notre mission d'intérêt général, c'est de leur demander des comptes au nom des citoyens et des citoyennes. Donc on est une sorte d'intermédiaire, si vous voulez, dans la vie démocratique. On est à la fois un intermédiaire, mais on est surtout un contre-pouvoir. Dans une démocratie digne de ce nom, la justice, il y a les médias, et les médias sont là pour jouer leur rôle de contre-pouvoir, pour interroger, pour mettre en cause, pour poser des questions au nom des citoyens et des citoyennes. Et dans des moments troubles comme ceux qu'on est en train de traverser, où l'état de droit est en train de s'effriter, où les règles sont en train de se perdre, il est important de rappeler que, oui, les journalistes ont un rôle à jouer et nous comptons bien le jouer. Et d'ailleurs, je vais vous dire mieux, je pense que les journalistes ont leur rôle à jouer d'autant plus dans des moments troubles comme cela. Si tout allait bien, si tout se passait bien, bon, quel est l'intérêt des journalistes ? Bah, de décrire le monde, c'est important. Mais là, dans des moments où on veut nous enlever notre voix, où la liberté d'informer est en danger, nous avons d'autant plus notre rôle à jouer d'éclaireur, d'alerte, tout ça toujours au service des citoyens et des citoyennes.
Et les gens, alors je rebondis sur Moulin, la salle était pleine à craquer, ça veut dire que les gens sont demandeurs. Souvent dans les médias, les masses médias, bon les gens, ça n'intéresse plus personne, personne n'y comprend rien, c'est trop compliqué. Ça ce sont des idées un petit peu fallacieuses, enfin des idées fausses. Les gens sont en quête de savoir pour comprendre le monde. Et ça c'est rassurant, vraiment j'étais enthousiaste lors de cette soirée moulinoise. Nous sommes... Je le répète, le 13 mars, demain, c'est un grand jour également pour vous, anniversaire pour toi, Karine. Tu vas fêter ton premier anniversaire de présidence et de, en tant que directrice de publication de Mediapart, donc félicitations. Je suis heureux de vivre cet anniversaire en intimité avec toi. Tu fais partie de l'équipe depuis les débuts, 2008. De ton point de vue, comment tu ressens cette année ?
Une grande fierté en fait de représenter cette équipe de Mediapart qui est extraordinaire. Et je pèse mes mots, c'est une équipe de 150 salariés aujourd'hui, on se connaît tous, c'est une entreprise à taille humaine, 150 salariés dont la moitié de journalistes. Moi, je suis arrivée à Mediapart au tout début, en 2008, donc c'est vrai que j'ai vu arriver tout le monde, j'ai vu l'entreprise être confrontée à des difficultés, j'ai vu comment on avait justement dépassé ces difficultés, et je suis fière de voir à la fois cette équipe que je représente aujourd'hui, mais aussi là où on l'a porté. Je pense évidemment aux fondateurs qui ont pris toutes les décisions stratégiques qui ont permis à cette entreprise d'être là où elle est aujourd'hui. Première décision majeure que les fondateurs et les fondatrices ont pris. Mais d'abord, je vais te dire leur nom.
Oui, c'est quatre principaux.
Edoui Plenel, évidemment, en tête, mais les autres...
À qui tu as succédé, Edoui Plenel, hein, qui est resté jusqu'au mois de mars 2024 président et directeur de publication. Tu lui as succédé. Il y a aussi eu...
Alors Laurent Mauduit, François Bonnet et Marie-Hélène Smiéjean, donc qui étaient vraiment nos quatre fondateurs qui ont conçu, pensé ce journal. Et pour moi, les deux choix stratégiques qu'ils ont fait principaux, c'est d'abord qu'ils ont cru en 2008, à un moment où l'information était distribuée gratuitement sur Internet, que oui, l'information de qualité avait un prix et qu'il fallait, plutôt que de dépendre de puissance extérieure,
la pub,
milliardaire, GAFAM, etc., État, il fallait dépendre des lecteurs et des lectrices. Et ça, c'est un choix fondamental. Parce que de toute façon, l'information est financée par quelqu'un. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas travailler sans moyens. Donc en gros, si ce ne sont pas les lecteurs et les lectrices qui payent pour l'information, ce sont forcément d'autres puissances. Et ces puissances, on considère qu'elles risquent d'avoir une mauvaise influence sur notre travail. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix radical, enfin en tout cas qui était radical en 2008, puisque aucun média en ligne n'avait fait ce choix. Et puis, l'autre choix stratégique pour moi, ça a été la décision en 2019 de faire en sorte que le capital de Mediapart ne puisse plus être jamais racheté ou vendu par personne. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un milliardaire et que vous vous dites « je vais racheter Mediapart parce que quand même c'est un lieu d'influence, de pouvoir qui peut m'intéresser », eh bien non, ça ne sert à rien, vous restez à la porte de Mediapart. Le capital est comme sanctuarisé dans un coffre-fort. On a mis en gros ce capital dans un coffre-fort, on a fermé le coffre-fort à clé et on a jeté la clé au fond du puits, via un fonds de dotation, une structure à but non lucratif, donc dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent, qui n'est pas rachetable, qui n'est pas vendable. Et donc voilà, aujourd'hui, on sait que notre indépendance, elle est garantie normalement pour toujours. Et pour nous, c'est extrêmement précieux parce qu'on imagine bien qu'un lieu comme Mediapart suscite la convoitise. Et donc, il faut absolument qu'on se protège à la fois des attaques, mais aussi des envies de rachat éventuelles qui pourraient passer dans la tête de quelques-uns, y compris dans certains qui pourraient avoir envie de nous racheter pour nous détruire. On peut tout à fait l'imaginer de cette manière-là. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est pour nous évidemment fondamental. Donc pour moi, voilà, ça c'est les deux grosses décisions qu'ont pris les fondateurs. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, ils ont inscrit les valeurs éditoriales de Mediapart dans la durée, dans le paysage médiatique. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc d'abord, avant tout, un journalisme qui se fonde sur les faits d'intérêt public. Un journalisme d'information au sens en fait assez classique. On est assez classique à Mediapart hein, dans la manière d'envisager notre métier.
Un journalisme d'enquête où on prend le temps à l'heure des infos rapides en quelques secondes, etc. Vous êtes à contre-courant et c'est super, c'est ce qui fait aussi la différence, je pense. Voilà, vous prenez le temps, vous enquêtez.
Le flux, le clic ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est que les gens s'abonnent. Vous voyez, en fait, ce qui compte pour nous, c'est que les personnes se disent « Oui, je vais accompagner cette aventure dans la durée. Ça m'importe d'avoir ces informations tous les jours. » Et donc, nous, une sorte de contrat avec Mediapart. Ça, c'est important pour nous. En revanche, le clic, le flux, le buzz, ça ne nous intéresse pas. Donc, effectivement, on n'est pas du tout, grâce à notre construction économique, on n'est pas du tout poussé à faire des titres sensationnalistes. On est pas
du scoop.
Des révélations et du scoop, oui, mais fondés et d'intérêt public. C'est-à-dire tout ce qui concerne la vie privée ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, l'intérêt public, c'est ce qui a de l'impact dans notre manière de considérer les relations entre les citoyens, les citoyennes et leurs dirigeants. C'est ça, hein, principalement l'intérêt public. En revanche, ce qui concerne la vie privée des uns, des autres, ne nous intéresse pas. Donc ça, voilà, pas de sensationnalisme. Et même, je dirais plus, parce que parfois on dit, ah, Mediapart, c'est le baltrap, leur objectif, c'est de faire démissionner tel ou tel ministre ou telle personnalité. C'est pas le cas. Nous, notre objectif, c'est de mettre les puissants face à leurs responsabilités et de montrer l'écart entre leurs paroles et leurs actes. Après, si ça doit les amener à démissionner, chacun en tire les conclusions. Mais notre objectif en soi n'est pas que tel ou tel démissionne. Notre objectif, c'est de dévoiler ce que certains voudraient voir caché, ignoré, passer sous silence. Et effectivement, notre métier est de faire dérailler la propagande et la communication politique. Donc souvent, effectivement, on se retrouve dans des moments où on place en difficulté certains hommes ou femmes politiques qui voudraient nous vendre un discours quand nous, on va révéler des faits. Et parfois, effectivement, l'écart est impressionnant entre les deux.
Génial. On passe encore une demi-heure ensemble ?
Un petit peu moins. Parce que j'ai deux, trois trucs. Je vous donne juste un mot-clé, mais notamment Bolloré, au fond de ma tête, là. Donc, il faut que j'aille m'occuper d'un dossier un peu sérieux. Enfin, c'est non pas que ce soit pas sérieux hein, de vous parler, au contraire, et c'est pas en revanche plaisant à la différence de ce que j'ai à faire par ailleurs, mais ouais, là je sens que la préoccupation est en train de regagner une partie de mon cerveau, malheureusement.
Comment on va terminer ? Comment on peut terminer, Karine ? Parce que bon, moi j'ai encore plein de choses dans la tête. Pour finaliser, est-ce qu'il y aurait une chose qui est importante ?
Oui, sur une note positive, dire
positif.
Hein. Voilà, ne baissons pas les bras, on a des choses à faire ensemble. Vous, les citoyens et les citoyennes, et nous, les journalistes, nos informations font bouger les lignes. C'est vrai que, tiens, par exemple, pendant le débat, quelqu'un a dit « Oui, mais bon, vous révélez plein de trucs formidables, mais ça ne change rien. » Eh bien,
j'allais t'en parler. C'est vrai, les choses sont dites, mais après,
Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, on considère que nos informations ont de l'impact, et je donne quelques exemples très concrets. L'affaire Cahuzac, qui a été une des affaires majeures de Mediapart au début du quinquennat Hollande, a montré que une grosse affaire, donc Cahuzac et Jérôme Cahuzac, qui était à ce moment-là ministre du budget et dont on a montré qu'il détenait un compte secret en Suisse et qui a dû finir par l'admettre devant tout le monde après l'avoir démenti devant tout le monde également. Donc Jérôme Cahuzac, après cette enquête, a été créé le parquet national financier et après cette enquête, enquête a été créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui depuis lors demande aux élus de donner des éléments sur leur, non seulement leur rémunération, mais sur leurs avoirs. Et donc pour nous, le PNF, le Parquet National Financier, qui, dont l'objet est d'enquêter judiciairement sur la corruption des plus puissants, et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont des institutions qui améliorent, qui fluidifient notre vie démocratique. On a une enquête sur les emprunts russes du RN, qui était alors le FN à ce moment-là, quand on a sorti cette enquête il y a 10 ans, qui a eu aussi beaucoup d'impact, et une loi qui a été votée en 2017 à la suite de cette enquête, qui désormais interdit aux partis politiques français de se financer par des banques hors de l'Union européenne. Bon, ben on considère que c'est une avancée. Cette année, on a, pour la première fois, on a publié justement, si vous verrez, il est en ligne et il est en accès libre, un rapport d'impact pour rassembler justement tous les impacts qu'on a pu avoir. Ben, en 2024, on a eu un impact aussi très concret pour les caisses de l'État. Grâce à Mediapart, les caisses de l'État et donc en gros ben, nos impôts sont renfloués. C'est-à-dire que à la suite d'une enquête sur des entreprises du secteur électrique, une amende a été infligée à des entreprises de ce secteur à hauteur de 470 millions d'euros. Cet argent est venu renflouer les caisses de l'État grâce à des révélations de Mediapart. Donc pour nous, on dit bah oui, à la suite de nos révélations, des entreprises doivent payer des amendes. De cette manière, cela renfloue les caisses de l'État. L'impact législatif, des enquêtes aussi, des enquêtes judiciaires sont ouvertes à la suite de certaines de nos enquêtes. Je pense à l'affaire Adèle Haenel, je pense à l'affaire, le procès Depardieu qui va intervenir bientôt. Je pense évidemment à l'affaire libyenne qui est le fruit et qui est le résultat, le procès est le résultat d'une enquête de journalistes. Donc sans notre travail journalistique, peut-être que ce procès n'aurait jamais eu lieu. Donc pour nous, c'est important de dire oui, en fait, on fait bouger les lignes du côté judiciaire, du côté législatif, du côté institutionnel. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est qu'on ouvre des champs d'enquête. Mediapart a été un des premiers journaux à travailler sur les violences sexistes et sexuelles avant même le mouvement MeToo.
L'affaire Bhopa, par exemple,
Bhopa, en 2016, qui est une des premières enquêtes de ce genre. Et avec cette enquête, on ouvre tout un champ journalistique. Le mouvement MeToo intervient un an et demi plus tard, vers 2018, et ensuite prend tout son essor. Et pour nous, ça, c'est le signe que Mediapart a su comprendre quelque chose qui était en train de se passer de manière très profonde dans les soutes de la société. Puisque si le mouvement MeToo explose, jaillit en 2018, c'est que des choses déjà étaient en train de se produire très profondément dans la société. Et donc pour nous, ça, c'est important de se dire, Mediapart entend, comprend ce qui est en train de se passer. Et puis là, aujourd'hui, je suis très fière parce que depuis un an, on a une journaliste, Mathilde Mathieu, qui est une journaliste hors pair, qui enquête sur les droits de l'enfant. Tout son travail est dédié à cette question. Et on considère que de la même manière qu'on a ouvert un champ d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles, il y a sans doute beaucoup à raconter sur les droits et les violences faites aux enfants. Voilà, donc il y a des choses qui sortent, des informations d'intérêt public qui importent, mais on espère que ça va provoquer un mouvement de fond dans la société, et puis peut-être que des institutions vont être créées, des enquêtes vont être ouvertes, des enquêtes judiciaires, et que les lignes vont bouger grâce à nos informations.
Merveilleux. Il faut que les lignes bougent. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, alors, on a explosé les compteurs. Pardon ?
Vous m'en voulez
pas ? Mais non, mais moi je pourrais rester encore une demi-heure avec toi, Karine. C'est merveilleux, ce moment privilégié. Je suis, je le répète, très heureux. Amis auditeurs, allez jeter un coup d'œil à Mediapart. Vous allez voir plein de choses. Ce que j'ai aimé aussi sur le site, c'est la transparence. Voilà, on dit les choses, on donne des chiffres. Et j'ai l'impression que si quelqu'un s'interroge, on pose une question, l'échange est possible avec les équipes de Mediapart et on a des réponses. Bon, le dernier mot. À bientôt.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut rester en lien, Karine ?
Tout à fait. Bien sûr. Bon.
Merci beaucoup, Karine. Bonne continuation.
Je vous en prie. À très bientôt et abonnez-vous, bien sûr.
Salut. Bon, voilà. Karine, retourne au boulot, je vais prendre quelques photos et puis m'éclipser. Voilà, amis auditeurs, le rendez-vous exceptionnel est terminé. Je suis dans le sas de sortie et je quitte les lieux. Salut Mediapart, à très très bientôt. Nous nous reverrons. J'ai passé un moment exceptionnel, amis auditeurs. J'espère que vous également. Je redescends les escaliers et je vais me trouver une petite brasserie parisienne pour manger à midi. Voilà, j'arrive au rez-de-chaussée et je retrouve le boulevard parisien. Je suis à la sortie. Voilà, ça y est, je suis à nouveau dans la rue, amis auditeurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle immersion sur Instant M. Salut !